bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Ahead pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, réfugiés burkinabés à Koro au Mali, survivre entre menaces armées et absence d'aide, témoignage poignant à l'approche de la journée mondiale des réfugiés. Travail des enfants centrafricains orphelins sur les sites miniers de l'Est Cameroun, une tragédie marquée par des accidents mortels. La Cour d'État du Niger lève l'immunité de Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un possible procès après le coup d'État de 2023. C'est notre fait marquant de la semaine. Les déplacés internes au Burkina Faso réussissent à travers l'entrepreneuriat pour sortir de l'assistance et trouvent une voie vers l'autonomie à Ouagadougou. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en direct. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Dans la région de Bindagara, au centre du Mali, plusieurs centaines de réfugiés burkinabés vivent dans des conditions précaires dans la ville de Koro. À l'approche de la journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin, notre correspondant Tidiani Ouedraogo a rencontré certains de ces réfugiés confrontés à des défis quotidiens après avoir fui les violences armées. Suivez.
Les exactions et les menaces de groupes armés poussent des centaines de réfugiés burkinabés à trouver refuge à Koro au Mali. Ce matin, Nizet Azala nous reçoit dans l'un des centres accueillant des réfugiés et situé au cœur de la ville.
Je recycle des céréales pour préparer de la nourriture. Depuis notre arrivée à Koro, nous n'avons pas eu d'aide et le problème de logement est cruel.
Obligés de tout laisser derrière pour fuir les attaques, certains d'entre eux, joignant difficilement les débuts, ont du mal à trouver un endroit où rester. C'est le cas de Risnatou.
Je viens de Bito. Je vendais des lieux et du sucre. Depuis mon arrivée à Koro, je suis sans abri comme vous pouvez le voir. Mes bagages sont sur cette charrette.
Ces réfugiés vivaient essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. En cette période d'hivernage, comment peuvent-ils pratiquer leurs activités? Une équation difficile pour ces réfugiés à Koro.
Bien avant cette crise, je faisais de l'agriculture et du jardinage pour gagner ma vie. Ici, je suis préoccupé car je n'ai pas un champ de culture dans cette ville. En plus, je m'inquiète pour ma famille.
L'insécurité grandissante dans la région du Sahel a de lourdes et multiples conséquences sur les femmes et les enfants. Comme Hawa, beaucoup de femmes réfugiées sont obligées de faire certaines activités pour pouvoir nourrir les enfants car elles sont séparées de leur mari.
Je fuis avec mes enfants pour venir à Koro. Ici, je travaille pour pouvoir nourrir mes enfants. Je n'ai plus de nouvelles de mon mari. Je n'ai plus d'informations sur lui depuis plus d'un an.
Beaucoup de réfugiés espèrent rentrer un jour dans leur pays d'origine pour reprendre leurs activités et revoir leurs proches. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Nous sommes en ligne avec Tidiani Ouedraogo pour continuer la discussion sur les défis auxquels font face ces réfugiés. Tidiani, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, quel défi avez-vous rencontré pour accéder au centre de réfugiés et obtenir des témoignages des réfugiés burkinabés? Tidiani, vous nous entendez?
Allô?
Oui, Tidiani, vous me suivez?
Allô?
Allô? Tidiani, vous nous entendez? Nous avons un petit problème technique avec notre correspondant Tidiani Ouedraogo. On va passer aux commentaires d'abord de nos auditeurs sur notre page Facebook. Charles Bazema, il est le seul à avoir réagi. Il dit, je cite, « Tout d'abord, les réfugiés dans le monde en général, et particulièrement ceux du Burkina Faso, sont des personnes qui n'ont pas choisi leur situation. Ils sont contraints de dormir à la belle étoile, voire sous la pluie, en raison des attaques terroristes. Malgré les efforts de nos dirigeants, ces personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je souhaite ardemment que la paix revienne dans mon cher pays, le Burkina Faso. » C'est donc le commentaire de Charles Bazema. Nous venons de rétablir le contact avec Tidiani Ouedraogo. Tidiani, vous nous captez ? Bonsoir.
Oui, bonsoir Eric.
Alors, quel défi avez-vous rencontré pour accéder au centre de réfugiés et obtenir ces témoignages des réfugiés burkinabés ?
Écoutez, Kourou est la dernière grande ville située à une trentaine de kilomètres à la frontière entre le Mali et le Burkina. Et officiellement, il faut rappeler qu'il n'y a pas un site exclusivement réservé à ces réfugiés qui franchissent la frontière du Burkina pour arriver à Kourou. Donc, la plupart des personnes qui viennent ont des affinités familiales avec la population haute. Il faudrait rappeler qu'il y a aussi des centaines de Maliens originaires du Burkina qui se sont installés au Mali bien avant l'indépendance. Donc, ces réfugiés arrivent par des liens de famille pour pouvoir avoir des sites où abriter. À titre d'exemple, par exemple, l'élément de reportage, je l'ai fait à travers un opérateur économique qui a offert son local à ses parents qui sont venus des Bidou. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Les autres qui n'ont pas les moyens sont obligés de s'installer aux alentours, soit aux alentours de la ville de Kourou. D'autres aussi sont aux environs des villages et dans des sites d'écoles fermés à cause de l'insécurité. C'est le cas des villages de Kiri et Bargou en partance sur la route du Burkina. Donc, de façon générale, pour avoir accès à ces réfugiés, j'ai pas eu une difficulté majeure, Eric.
Alors, quelles sont les principales préoccupations et demandes des réfugiés que vous avez rencontrés en dehors de celles mentionnées dans les témoignages de Limata et Risnatou?
Vous savez, tous ces réfugiés qui viennent ont des problèmes communs. C'est les problèmes d'accès au logement, les problèmes de nourriture, les problèmes liés à l'accès aux soins de santé. J'ai vu une femme, par exemple, à l'école de Kiri, en fuyant avec son mari, ils sont tombés en moto, la jambe s'est fracturée. Et elle est en train de faire sa convalescence à partir de l'école de Kiri. Et depuis à peu près 2 ou 3 mois, elle n'a pas eu d'aide pour pouvoir amoindrir sa souffrance. C'est des exemples comme ça. Il y a d'autres femmes qui, les maris ne sont pas là après les attaques. Elles n'ont plus les informations de leurs maris. Elles sont obligées de venir à Kourou et devenir des chefs de ménage. C'est elles qui sont obligées de travailler pour pouvoir nourrir des enfants. En plus de ça, il y a l'aspect humanitaire. Tout cela se passe à un moment où les organisations humanitaires se font très rares dans les centres du Mali, Eric.
Merci beaucoup, Tidiani Ouedraogo, pour toutes ces précisions. Nous approfondissons donc la discussion avec Mohamed Abdelahi El Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel, promoteur du symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Eric.
Alors, vous n'êtes pas loin de la ville de Kourou. Quels sont les principaux défis humanitaires auxquels sont confrontés les régimes en place au Sahel pour accueillir et assister ces réfugiés?
Alors, tout d'abord, c'est le lieu de remercier votre chaîne de m'avoir accordé l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique sur laquelle je travaille à travers mon symposium. Vous savez, aujourd'hui, nous devons comprendre que tous les régimes militaires, c'est-à-dire qu'ils soient le régime du Burkina Faso, du Niger et du Mali, ce sont des régimes qui ont hérité vraiment d'un pays ou des pays à terre, c'est-à-dire sur le plan économique, et sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Donc, ils sont en pleine reconstruction de l'État et la refondation des États chez nous. Et les principaux défis sont des défis énormes, ça peut être les défis sont vastes et urgents également. Il s'agit des défis liés à l'eau potable, des défis liés aux abris, des défis liés aux besoins médicaux et de la nourriture. Voilà un peu de ces défis et également les défis liés à la scolarisation des jeunes filles, des jeunes garçons et des jeunes filles qui sont dans ces qui font partie de ces différents lots, parce que la majorité de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Mais je pense qu'avec depuis l'année 2023 jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement malien, la transition malienne, à travers quelques partenaires, ont pu vraiment mettre sur place des écoles, ce qu'on appelle des écoles modernes, des écoles de construction temporaire, pour permettre aux enfants vraiment d'accomplir leur cursus scolaire.
Quelles sont autres solutions envisageables qui pourraient améliorer les conditions de vie des réfugiés burkinabés vivant à Koro et dans d'autres régions du Sahel?
Oui, il y a des réfugiés maliens également en Béra, au Burkina Faso et au Niger. Mais aujourd'hui, les solutions envisageables sont d'abord la construction d'un camp moderne ou des camps modernes dans les différentes zones du pays du Sahel. Et c'est pourquoi il faut saluer la création de l'AES. Pourquoi? Parce qu'on voit que tous ces pays ont les mêmes réalités socioculturelles. Et également, il faut mettre sur place des projets pour soutenir les éleveurs ou les femmes qui sont dans ces différents camps de réfugiés pour vraiment permettre leur socialisation économique, socio-professionnelle dans ces questions. Que ce soit à Koro, que ce soit en Béra, que ce soit au Burkina Faso. Il faut également, réfléchir à la construction des centres d'éducation temporaire pour permettre à ces enfants, à ces jeunes filles vraiment de continuer leur cursus scolaire. Mais également, c'est un appel qu'on lance à la communauté internationale, qu'ils doivent faire tout pour favoriser la participation socio-économique des réfugiés, surtout les femmes.
On va y arriver, monsieur Mohamed, on va y arriver. Est-ce que les régimes en place au Sahel dispose-t-il des ressources et des capacités nécessaires pour mettre en œuvre ces solutions de manière efficace?
Oui, de manière efficace, ce sont des régimes, comme je l'ai bien et bel dit, qui ont été des pays à plat, qui sont en pleine refondation, et nos sous-sols sont riches. On est en train de réfléchir dans les différents pays, à travers des experts, à travers le gouvernement, à travers des partenaires techniques et financiers, pour vraiment voir qu'est-ce que l'État peut faire. Par exemple, quant au Mali, le Mali a des ressources minérales largement inexploitées, comme le fer, le magnésium, le lithium, et également l'or et le fer. Donc toutes ces ressources-là peuvent permettre vraiment à l'État malien, au Burkina Faso, au Niger, vraiment de mettre au profit pour protéger ces réfugiés. Parce que le monsieur a dit dans son commentaire, personne n'a décidé d'être un réfugié aujourd'hui. Mais quand le tour arrivera, chacun a son tour chez le coiffeur. Donc on doit se donner la main pour vraiment réfléchir à des solutions capables et des solutions qui sont des solutions idoines et dans le plus vite possible, parce que ce sont les êtres humains comme nous qui sont vraiment dans des situations un peu déplorables. Mais le gouvernement des trois pays de l'AES sont en train vraiment de faire tout pour satisfaire leurs concitoyens.
Vous citez des ressources disponibles, mais qui ne sont pas disponibles parce que l'exploitation peut prendre des années et des années.
Oui, mais il y a aussi des ressources qui étaient en cours d'exploitation, qui aujourd'hui, par exemple, quand on prend sur le plan minier, l'État malien a recadré, c'est-à-dire l'exploitation minière au Mali, tout en permettant à l'État d'en bénéficier beaucoup. Donc toutes ces ressources-là peuvent permettre vraiment à l'État de voir sur quel plan, projeter la protection, donner une bonne condition de vie aux populations de nos pays voisins et amis, qui sont les pays de l'Est, qui soient du Niger ou du Burkina Faso.
Alors, quel rôle les organisations internationales et les partenaires extérieurs peuvent-ils jouer pour soutenir les régimes du Sahel dans la gestion de la crise des réfugiés?
Alors, la gestion de la crise des réfugiés peut être gérée de façon pacifique et très très rapidement à travers la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale doit tout simplement se référer au pacte mondial sur les réfugiés, c'est-à-dire alléger la pression sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir l'accès aux solutions dans des pays du Sahel et des pays de l'Est, favoriser les conditions d'un retour dans les pays d'origine en sécurité et dans la dignité. Voilà un peu leur rôle. Et également d'écouter en réalité des experts qui sont sur le terrain, d'écouter le gouvernement. On ne peut pas imposer au gouvernement ce que le gouvernement ne peut pas faire. La communauté internationale aujourd'hui doit être du côté du gouvernement afin d'aider ces êtres humains de sauver leur vie. Mais ce n'est pas en nous imposant des agendas vraiment dont le pays même les pays ne comprennent pas. Aujourd'hui, l'agenda de la communauté internationale par rapport à cette zone-là, je parle plus précisément de la Liptago-Gourma, doit vraiment refléter sur les réalités socio-économiques des pays de Liptago-Gourma qui ont été déjà proposé par l'AS et par le Mali, par le Mali vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Donc aujourd'hui, c'est une responsabilité mondiale qui est là aujourd'hui de sauver toute cette zone. Et afin que les gens soient sauvés, les êtres humains soient sauvés, les vies soient sauvées.
Une dernière question, en quelques secondes, vous citez des régimes militaires qui ont hérité, selon vous, des pays à terre. Qu'est-ce qu'ils ont hérité de bien qu'il faut renforcer et où est-ce qu'il faut corriger?
Alors, le Mali, par exemple, quand il y a eu le coup d'État du colonel Assimi Goïta, il y avait vraiment un sérieux problème d'un accord d'Alger et le pays a réfléchi à travers le colonel Assimi Goïta aujourd'hui qui a proposé au peuple malien le DIM, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, et qui vraiment a permis au peuple malien de se parler, de se pardonner, afin de nous dire quelle est la direction que le peuple du Mali, c'est-à-dire les populations maliennes veulent suivre. Voilà déjà un aspect à suivre. Et également, il y a eu la révision constitutionnelle qui a permis au Mali vraiment de s'adapter sa réalité politique, économique, culturelle à la réalité du terrain à la lettre de l'État malien. Voilà un peu des valeurs qui sont là également. Même, j'ai cité tout à l'heure la question minière. Le Mali, vraiment, projet de mine, mais on n'en avait pas une grande part dedans. Mais l'État malien, à travers la transition, aujourd'hui, vraiment, se sent bien. Tout cela peut nous permettre vraiment de financer nos propres projets, d'être nous-mêmes.
Merci, Mohamed Abdelahi El Khalil. Je signale que vous êtes spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
De nombreux enfants centrafricains se retrouvent contraints de travailler sur les sites miniers de l'est du Cameroun. Ces enfants sont souvent orphelins ou issus des familles ayant fui la guerre en République centrafricaine et ne résident pas dans les camps de réfugiés gérés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Vivant des conditions précaires et extrêmement dangereuses, certains de ces enfants ont malheureusement perdu la vie suite à des éboulements d'avantage avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Bien sûr, la mort, c'est pour nous tous. On doit partir. Mais ce n'est pas avec le casier. Le casier, c'est vraiment mauvais.
Jimmy Mama est un ressortissant centrafricain vivant à Batouri au Cameroun, à 400 km de Yaoundé. En 2021, Youssouf, son neveu âgé de 16 ans, a trouvé la mort à la recherche de l'or au village Kambélé 3, dans la région de l'Est, voisine de la République centrafricaine.
Dans la nuit, vers 4 heures, les enfants qu'elle part marcher avec eux, et ils ont marché ensemble, c'est les enfants-là qui sont venus, mais coignaient la porte vers 3 heures du matin. Il m'a dit que voici, la trou est tombé sur Youssouf. On est en train de creuser. Bon, maintenant, c'est difficile pour nous. On n'a pas trouvé la corde jusqu'à maintenant. On m'a arrivé et nous sommes allés creuser avec eux. Et vers 4h, 5h, on a trouvé la corde.
C'est sur le site minier d'une société chinoise dénommée Menchenu Wang Woping, laissé ce jour-là à ciel ouvert, que le jeune centrafricain Youssouf est décédé. Il y a 2 ans, un procès s'est ouvert contre cette société chinoise au tribunal de Batouri, à plus de 400 km de Yaoundé. Dieudonné Dissi, avocat de la victime.
Du point de vue juridique, il faudrait que les sociétés chinoises comprennent qu'il y a un code minier qui doit être respecté au Cameroun. Si l'administration des mines assumait pleinement ses responsabilités dans les chantiers miniers, on ne se retrouverait pas avec ce genre de situation. Heureusement que la gendarmerie nationale essaye de les supplier dans leur manquement. C'est un message fort et qui a envoyé à tous les autres expatriés, y compris les locaux qui s'associent avec ces expatriés, que leurs actions ne peuvent pas rester impunies.
Mais l'on retrouve encore de nombreux enfants centrafricains à la recherche effrénée de l'or sur les chantiers miniers dans la région de l'Est. L'un d'eux témoigne.
J'étais creusé la terre, j'ai trouvé cailloux, j'ai concassé, j'ai pas, il écrase, je lave avec mercure. Quand j'ai trouvé ce que j'ai donné, même une bichette, même 5 bichettes que j'ai mangé avec.
Jospin a quant à lui quitté la Centrafrique en 2015. Il avait alors 7 ans. Aujourd'hui, il dit gagner sa vie sur un site aurifère, au village Mali, dans la région de l'Est.
Ça veut dire que c'est au sanctuaire. C'est bon, le lot, si j'appelle, à l'autre, ça ne paye pas. Parce que l'or, ça dévale de charge. Quand tu as la charge, ça paye toi même si c'est à 700 000 ou à 700 000. Quand tu n'as pas la charge, ça ne paye pas.
Les autorités camerounaises tentent d'endiguer le phénomène du travail des enfants sur les sites miniers dans la région de l'Est. Diada Yakuba, préfet de la Kadeye, dans la localité de Batouri, est le chef-lieu.
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique a prescrit, n'est-ce pas, l'interdiction de ces enfants dans les sites miniers. J'ai demandé donc à toutes les autorités qui sont au niveau des arrondissements d'appliquer cette mesure.
Ces sept dernières années, les organisations de la société civile locale affirment qu'au moins 200 personnes sont mortes sur les sites aurifères dans la région de l'Est, parmi lesquels des enfants de nationalité centrafricaine. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
La Cour d'État du Niger a décidé de lever l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum, ouvrant ainsi la voie à son éventuel jugement pour des accusations incluant complot contre l'État, trahison, apologie du terrorisme et financement de terrorisme suite au coup d'État de juillet 2023. C'est notre fait marquant de la semaine. Abdelrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey, a suivi pour vous. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, comment les médias locaux ont-ils couvert la décision de la Cour d'État devant cette immunité de Mohamed Bazoum?
Alors, il faut dire qu'il y a eu une grande mobilisation des médias locaux, mais aussi des correspondants des médias internationaux pour suivre cet épisode-là de la levée de l'immunité du président du Chili, Mohamed Bazoum. Ils se sont mobilisés le vendredi dernier au niveau de la Cour d'État pour suivre donc ce verdict. Mais bien avant, puisque vous savez que le procès a été reporté à deux reprises, donc à toutes ces occasions, les médias, les journalistes se sont mobilisés pour suivre ce dossier, qui est quand même un dossier assez important depuis les événements du 26 juillet avec le renversement donc du régime du président Mohamed Bazoum, et les médias ont essayé de suivre l'évolution donc de ce dossier et savoir finalement si la Cour d'État saisie donc par les autorités militaires en place.
Razak, est-ce que c'était une audience ouverte au public? Est-ce
oui,
que le président Bazoum a été représenté par ses avocats?
Non, le président Bazoum n'avait pas été représenté puisque ses avocats ont décidé à l'audience, donc il y a deux semaines, puisque vous savez, vendredi dernier, c'était juste le verdict que la Cour d'État a rendu. Il y a eu une semaine avant donc les discussions au fond du dossier, mais ses avocats ont choisi donc de quitter la salle parce qu'ils ont estimé que les droits de leurs clients n'étaient pas respectés. Mais sinon, les deux audiences étaient publiques, le public pouvait assister. On a vu des partisans du président Mohamed Bazoum, du président du Chili Mohamed Bazoum dans la salle. Donc c'était ouvert au public et donc à la presse notamment.
Est-ce que les gens discutent-ils ouvertement concernant l'affaire Bazoum?
Ah oui, bien sûr, c'est pas un sujet tabou, c'est quand même le président de Chine. Beaucoup veulent voir le sort qui va lui être réservé. Et vous savez que c'est au mois d'août, soit un peu plus d'un mois après le coup d'État, que les autorités militaires ont annoncé leur intention de poursuivre le président pour haute trahison. Cela après, selon ces autorités militaires, plusieurs preuves qu'ils disent détenir contre lui, notamment des échanges téléphoniques. Vous savez qu'après le coup d'État, il y a eu des tentatives d'une intervention militaire pour le rétablir dans ses fonctions. Donc, il a dû échanger, selon les autorités militaires, avec beaucoup de personnalités extérieures. Et cela est assez compromettant. Maintenant, il y a eu aussi, après cela, une tentative d'évasion annoncée également par les autorités militaires. Et du coup, donc, dans le public, au sein de la population, beaucoup veulent savoir quel va être le sort du président.
Oui, en quelques secondes, comment le public perçoit-il justement la levée de cette immunité et les accusations portées contre Mohamed Bazoum.
Alors, beaucoup pensent qu'avec cette levée de l'immunité du président déchu et que et avec la probable poursuite dont il sera l'objet, qu'il va donc à présent pouvoir, devant un juge, beaucoup parlent ici du tribunal militaire, pouvoir se défendre déjà, mais aussi permettre aux autorités militaires en place de brandir les preuves qu'elles ont, qu'elles disent de tenir contre lui par rapport à tous ceux dont il est accusé. Et donc, c'est attendu de façon, on va dire, assez impatiente au sein du public, cette procédure. Hein,
qui merci, va peut-être... Razak, pour toutes ces précisions. Avant de vous quitter, on va retourner au Burkina Faso, après plus de 8 années d'insécurité causée par les attaques terroristes, le Burkina Faso fait face à un nombre significatif de personnes déplacées internes et réparties dans diverses villes du pays. À Ouagadougou, la capitale, certains de ces déplacés tentent de s'adapter en exerçant des métiers qui leur permettent de reconstruire leur vie sans dépendre de l'aide. Gilles Dasda a rencontré des personnes déplacées internes, parmi lesquelles certaines ont réussi à se réintégrer grâce à leur esprit de résilience. Suivez.
Fuyant l'insécurité à Silgadi, à 160 km de Ouaga, Sayouba Sawadogo, auparavant agriculteur dans son village, a trouvé refuge dans la capitale burkinabé il y a plus de 5 ans, avec pour défi toute une vie à reconstruire.
Arrivé ici, je n'avais pas de boulot. Quand tu fuis ton village et après tu n'as plus de travail, tu essaies de te débrouiller petit à petit pour t'en sortir. C'est ainsi que j'ai essayé un job en débutant la vente de crédit de téléphonie mobile. Et peu à peu, j'ai ouvert cette boutique de transfert d'argent pour téléphonie mobile, Orange Money.
Une famille de 7 personnes à sa charge, celui qu'on surnomme désormais Sayoub Mané, a bénéficié d'aide de personnes résidant à Ouaga pour se sortir de la dépendance et des dons. Avec persévérance, du métier de vendeur ambulant de crédit téléphonique, Sayouba s'est fait une petite place au soleil, au quartier Tanguin.
Je fais les opérations de Mobile Money, Orange Money, depuis maintenant 5 ans. Grâce à cela, j'arrive à prendre en charge ma famille.
Dans sa petite boutique, la clientèle est régulière. Sayouba, qui vend des accessoires de téléphone portable, dit aussi venir en aide à d'autres déplacés internes dans la mesure de ses moyens. Un appui qui a permis à d'autres comme lui de débuter des petits jobs. À quelques kilomètres de là, le quartier Amdalaï, Amsetouno d'emprunt, est à la tâche. Déplacée interne à Ouaga, elle va ensuite se réfugier au Ghana voisin. Puis, ce sera le retour au pays. Depuis son arrivée, machine à coudre sous le bras, elle fait le tour des marchés pour chercher la clientèle. Son métier, la couture, avec une touche particulière, se déplacer vers les clients en cas de demande.
Je suis revenu à Amdalaï, je fais la couture et je gagne un peu d'argent, ce qui me permet de prendre soin de ma famille. C'est la machine à coudre que je maîtrise. Si je peux avoir un local fixe, ce sera bien. Dans la journée, je peux coudre au moins un complet. Donc, vraiment, on ne vit que de ça.
Entre elle et sa voisine immédiate vendeuse de fruits qui a pu écouler l'ensemble de son stock du jour, il y a une petite complicité. Les deux dames déplacées internes travaillent souvent de pair afin d'être sûres d'obtenir leur pitance quotidienne. Vente de fruits pour l'une, couture pour l'autre. Se donner la main permet de mieux faire face aux difficultés de la vie de personnes déplacées internes.
Il y a des moments où on arrive à travailler. Il y a aussi des moments où il n'y a pas de clients. Donc, c'est comme ça.
À Ouagadougou, des milliers de personnes déplacées internes sont réparties dans différents quartiers de la ville. Pour éviter de dépendre uniquement des dons, nombre d'entre elles se sont lancées dans des activités peu pratiquées par les déplacés. Cela dans le but de ne pas sombrer et surtout de demeurer résilient en attendant que la crise sécuritaire s'estompe. Gildas Da, Ouagadougou, VOA.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Michel Claire Joseph, Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la production. Eric Manelakiza vous dit à très bientôt.